On a lu dans la paracha Shoftim de la semaine dernière, il y a une mitzvah de la Torah, d'écouter, on avait bien dit, tout ce que les rabbins vont enseigner, de quel rabbin on parle, a priori dans ce qui est écrit noir sur blanc dans la Torah, on parle des rabbanim qui siègent à Yerushalayim, dans le grand tribunal de Yerushalayim, le Sanhedrin. Donc la Torah, noir sur blanc, c'est un verset noir sur blanc, c'est plusieurs versets même qu'on a cités. Et de ces versets-là, on apprend qu'on doit écouter les décrets que les rabbins vont décréter pour faire une barrière à la Torah. Vous savez qu'il y a une mitzvah de la Torah aussi. Il y a un passou qui dit « Ushmartem et mishmarti »« Vous garderez ma garde ». C'est quoi la garde d'Akadosh Baruch Hu ? C'est la Torah. « Vous garderez ma garde », c'est-à-dire vous ferez une garde supplémentaire à ma garde. Par exemple, tout simplement, quand il y a un trou, d'accord, il y a un fossé, une falaise, alors on met une barrière. Vous savez qu'en Israël c'est obligatoire, et d'après la Torah c'est aussi obligatoire, et de mettre une barrière dans tous les endroits qui sont dangereux, qui peuvent être dans votre maison par exemple, ou le toit, la fenêtre. C'est pour ça que vous avez pu remarquer que dans les quartiers religieux il y a des barreaux à chaque fenêtre, on a l'impression qu'on est en prison presque, mais c'est obligatoire. D'accord ? Parce qu'on ne sait jamais, chas v'shalom, il suffit que maman elle tourne le dos et le petit garçon de 7 ans, il monte sur la fenêtre pour regarder qu'est-ce qui se passe en bas, il trébuche. La Torah elle dit, si ça arrive, c'est toi qui es responsable. Tu avais qu'à mettre, toi le papa, qui n'a pas mis une barrière.
Le gaz,
je ne sais pas, il faut mettre des sécurités, il faut bien surveiller, il faut être très dur avec les enfants à ce niveau-là.
C'est comme le verre d'eau en fait. Tu le remplis jusqu'à Rabat et t'écoutes la Torah, c'est un peu dangereux. Et tu mets une barrière, tu le remplis un petit peu moins.
J'ai pas compris l'image, mais c'est pas grave. Et en tout cas, s'il y a une falaise, alors on doit mettre une barrière. Maintenant, si tu mets la barrière contre quelqu'un qui court à côté de la barrière, même en trébuchant, il risque de tomber par-dessus la barrière. Donc des fois, il faut mettre une deuxième barrière à la barrière, un peu plus loin. D'accord, on voit dans les grosses manifestations ou dans les choses importantes dans le monde, souvent ils mettent une première rangée de barrières, après ils mettent une deuxième rangée de barrières. Celui qui a passé la première rangée de barrières, en général il y a des hommes un peu en armure comme ça, qui s'occupent de lui, d'accord, pour l'attraper et pour le faire se calmer. Celui qui a passé la deuxième, déjà lui, il n'y a plus de quoi le calmer, c'est direct l'hôpital. En général comme ça, ça fonctionne, d'accord. Donc la même chose, là il y a un issour de la Torah. Si le monsieur il tombe dans le issour de la Torah, on veut ça, on veut son bien. On veut pas chasver shalom, que la colère d'Hachem se déverse contre lui. La Torah, elle t'a dit, tu dois faire mes mitzvot. Donc nous, pour le bien de notre frère juif, enfin nous, les rabbins à l'époque, pour le bien du peuple d'Israël, quand ils voyaient que des fois, le peuple d'Israël était un peu frôlé un petit peu trop avec l'interdit, et que la dérive risquait d'être très proche, hop, on fait un décret supplémentaire pour écarter le danger. Si jamais la personne elle a transgressé le décret, elle n'a pas transgressé la Torah, vraiment les 613 mitzvot. Elle a transgressé un décret des rabbins, c'est évident que c'est moins grave, même si c'est d'après le Rambam, ça s'inscrit dans un interdit de la Torah qui est l'obligation d'écouter les rabbins. Maintenant, donc, dans leur décret, on est obligé de les écouter. C'est un verset noir sur blanc. Dans la manière dont ils expliquent la Torah, on était aussi obligé de les écouter. C'est aussi, on l'apprend du verset. Et tout ce qu'ils vont dire, on a reçu ça depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à aujourd'hui, par transmission orale, on est obligé de les croire. On n'a pas le droit de dire, oui, mais peut-être que, en vérité, non, ça s'appelle, il y a eu une faille dans la transmission. D'accord ? Donc, tout ça, on parlait de quoi ? Du tribunal qui siège à Yerushalayim, le tribunal de 71 sages qui siège à Yerushalayim dans le Kodesh, dans le Beth Amikdash, dans le temple. Pourquoi ? La raison elle est simple. Pourquoi eux on doit les écouter ? Il y a un interdit de la Torah. Donc on avait dit le Ramban, oui.
Maintenant c'est encore une mitzvah de les écouter, mais c'est la même mitzvah exactement qui tient maintenant, d'écouter les rabbanim d'Israël uniquement ou...
On va arriver à aujourd'hui. Okay. C'est tout ça. Que pour aujourd'hui. Donc, on va arriver aujourd'hui. Donc, maintenant, le avant ça. Ah, on avait dit pourquoi il y a une mitzvah de les écouter. Le Ramban, il explique c'est quoi la raison de cette mitzvah. Est-ce que quelqu'un se souvient?
Parce que sinon tu casses la transmission.
Hein? La raison de la mitzvah, c'était quoi? Le Ramban, il amène cette raison. Ça, c'est une loi dans la Torah, mais souvent les lois de la Torah, elles ont aussi une raison. C'est pas juste parce que c'est écrit, alors c'est comme ça. La raison, c'est que vu le texte, comment il est écrit, toi tu peux comprendre le texte comme ça, toi tu peux le comprendre comme ça, lui il peut le comprendre comme ça, et lui, et chacun il peut l'interpréter comme il veut. Chacun peut interpréter ce texte comme il a envie. Du coup, il n'y aura plus une Torah. Il y aura 25 000 religions juives. D'accord ? Comme on a dit, la blague très connue, le dicton très connu, deux juifs, trois avis. D'accord ? S'il y a deux juifs, il y a trois avis. Eh, forcément, il y a un désaccord. Donc, si c'est comme ça, tu prends 6 millions de juifs, ça te ferait combien de Torahs ?
9 millions.
Ok. C'est plus possible. Pour chaque juif, il y aurait une religion différente. Pour chaque juif, il y aurait une religion différente. Donc, il vient. La Torah est venue, elle a dit non, non, non. Il y a un tribunal que tu vas devoir écouter et toute la Torah orale sera transmise par eux. Ça, c'est le tribunal qui siégera là où HaKadosh Baruch Hu mettra son nom, c'est-à-dire dans le sanctuaire, donc dans le temple. Pourquoi Davka à cet endroit? Pourquoi précisément là-bas? Parce que du coup, ils ont une influence qui vient d'en haut, une Siata d'Ishmaïa, ce qu'on appelle qu'un autre tribunal qui serait à l'extérieur du temple n'aurait pas. Donc eux, sur l'explication de la Torah, sur les décrets et sur tout ce qu'ils ont reçu depuis Moshe Rabbeinu, on était obligé de les écouter. Ça, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Et eux, on a bien précisé que eux avaient fixé toutes les lois de la transmission orale. Donc maintenant, vu qu'ils ont fixé toutes les lois de la transmission orale, on est obligé d'écouter toute la transmission orale. Si cette transmission, elle tient dans ces lois-là. D'accord ? Donc on va essayer d'expliquer aujourd'hui. C'est que aujourd'hui, depuis 2000 ans, à peu près, il n'y a plus de temple. D'accord ? Et comme il n'y a plus de temple, on a un vrai problème. Parce qu'il n'y a plus de Beit Din qui peut décréter. Non, c'est comme ça qu'on doit faire, et c'est pas comme ça, etc., etc. La preuve en est, c'est que depuis qu'il n'y a plus le temple, il y a 10 millions d'avis. Et les Ashkenazim, ils font comme ça, et les Sfaradim, ils font comme ça, et les Chassidim, ils font comme ça, et les Thémanim, ils font comme ça, et les Algériens, et les Marocains, et les Tunisiens, et les Yékés, et les Hongrois, et les... Chacun qui est parti dans un pays, ça y est, il a... D'accord ? Donc, on va voir. Déjà, on va essayer de comprendre c'est quoi une mahloket. Vous savez, quand on ouvre le chasse, on ouvre le Talmud, déjà on ouvre la Mishnah, c'est rempli de ce qu'on appelle les mahloktot, les discussions. Et j'ai jamais personne qui est d'accord. Déjà dans le Talmud, on n'est pas d'accord. Il y a un avis, il y a deux avis, il y a trois avis, il y a 10 avis des fois. Parce que maintenant, on avait posé la question aussi la semaine dernière. Si la Torah est vraie, pourquoi? Je te dis que ça c'est noir, toi tu me dis non c'est rouge. D'accord? Toi tu me dis c'est noir, moi je te dis c'est rouge. Il y a un problème. Donc bon, il y a un exemple très connu que tout le monde connaît déjà, Al Rav Shai, il l'utilise beaucoup dans ses conférences. C'est que si je prends ce livre, d'accord, et je te demande à toi, c'est quoi qui est plus grand? La base ou la hauteur? Là, du livre. Tu vas me répondre quoi? C'est quoi le plus grand? La base ou la hauteur? La base. Toi, tu vas me répondre quoi? La base ou la hauteur? La hauteur. Pourtant, vous regardez le même livre. Alors maintenant, vous allez vous poser tous les deux en face et vous avez vu un livre. Et vous allez discuter. Ce livre, est-ce que la base, elle est plus grande ou la hauteur, elle est plus grande? Mais toi, tu vas le tuer s'il te dit « Mais non, la hauteur, elle est plus grande. » Mais tu me prends pour un fou, quoi. J'ai vu, sa base, elle est plus grande. Comment tu peux oser dire une chose pareille que la hauteur, elle est plus grande? D'accord? Maintenant, c'est quoi le point commun entre les deux? C'est qu'ils regardent le même livre, mais pas du même côté. Alors maintenant, leur rave à eux, il leur avait appris qu'en vérité, chacun des deux, il est vrai. La chose qui lie les choses, c'est le livre entier. mais que toi, tu as regardé qu'un côté du livre. Maintenant, eux, quand ils ont reçu la transmission, vu qu'il y a la descente des générations et qu'on est à chaque génération un peu moins intelligent que la première, que la précédente, alors on se retrouve avec un problème. C'est que je ne capte pas toutes les informations. Et si je n'ai pas capté toutes les informations, il me manque une partie de l'explication. Par exemple, le cas coûte très facile. Maintenant, même si quelqu'un, ils vont dire des choses qui sont complètement contradictoires. Un, il te dit c'est complètement permis. L'autre, il te dit c'est complètement assourd. Exemple tout simple. Déchirer le papier toilette Shabbat. Aujourd'hui, d'accord, on va prendre une discussion entre nos sages, de nos générations à nous. Chez les Sépharadim, il y a une mahaloket entre Rav Ovadia Yosef et Rav Ben Sion Abba Shaul. Rav Ovadia Yosef, il dit que si tu ne le déchires pas sur les pointillés, alors tu ne transgresses pas l'interdit de la Torah parce que c'est un chinouï.
Ça veut dire chinouï ?
Tu fais une différence. Ce n'est pas sur le pointillé. Donc tu ne crées pas maintenant un papier. Tu détruis un papier. Alors que si c'est sur le pointillé, tu crées maintenant un papier tout clean. Tout droit, bien comme il faut. Tu termines un travail. On t'a précédé le travail. Et toi, tu viens mettre ce qu'on appelle ma kebe patish. Tu mets le dernier coup de marteau pour planter le clou. C'est toi qui as terminé le travail, c'est toi qui chayav.
Oui, mais on dit d'accord pareil pour les bouchons de bouteilles.
Attends, on va pas rentrer dans le bouchon de bouteille. Okay. C'est presque la même chose, mais c'est pas tout à fait la même chose. Maintenant, hein, parce que les bouchons de bouteille, c'est encore un autre très compliqué. On va pas apprendre toute la Torah sur un pied. J'ai pris un exemple, d'accord. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc là, on va dire, il dit, si tu déchires pas sur les pointillés, c'est pas Rav Ben Sion Abba Shaul, il dit, même si tu ne gères pas sur les pointillés, tu fais un interdit de la Torah. La Torah. De faire un morceau de papier sur lequel tu peux... D'accord ? Tu es en train maintenant de... Vu que le rouleau en tant que tel, tu ne peux pas l'utiliser, d'accord ? Donc maintenant, même si tu ne déchires pas sur les pointillés, tu permets l'utilisation de ce papier. Donc tu as créé un papier que tu peux utiliser. Terminé, que ce soit sur les pointillés ou pas, ça ne me regarde pas. Maintenant, il dit un patente. Il dit, alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu le déroules sans le déchirer. Tu te nettoies, tu jettes dans la cuvette, tu tires, ça se déchire tout seul. Toi, tu n'as rien fait.
Ouais.
Ok, ça, mahaloket, Rav Ovadia, Rav Ben Sion. Donc maintenant, lui, il dit, c'est complètement permis. Lui, il dit, c'est un interdit de la Torah. Ok, donc maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? Comment on peut dire une chose? Comment on peut dire une chose pareille de... Lui, il dit, c'est complètement assourd. Lui, il dit, c'est complètement permis. Et dans la Gemara, vous allez voir, vous avez dû goûter un petit peu déjà à Ketubot. C'est sans cesse, sans cesse. Et après, Rashi, Tosfot, et le Rambam, et le Ramban, et le Shulchan Aruch, et tatati, et tatata, et tout le monde qui... Que des discussions. Behemet, ça ressemble un petit peu à ça, mais c'est encore plus flagrant. Parce que là, vraiment, le type, il a... S'il ne comprend pas que l'autre, il a vu que la base... Elle peut être plus petite aussi, c'est que vraiment il n'a pas voulu voir le livre entier. Mais par exemple, tu passes devant un magasin. Je te pose la question à toi, je sais pas moi, le Carrefour, d'accord? Est-ce que le Carrefour il est ouvert le dimanche?
Ça dépend la ville.
Toi, tu vas me dire non. Lui va me dire, bien sûr, il est ouvert. J'en sais rien, je connais pas les horaires d'ouverture du Carrefour. Mais. On fait pas de pub de toute façon, mais c'est... Lui, il va me dire non, il est fermé le dimanche. Lui, il va me dire oui, il est ouvert. Je comprends pas. Il y en a un des deux, c'est un vrai menteur. Il y en a un des deux, il veut me faire aller à Carrefour pour rien. Ou alors, il veut me faire rater les promos parce que c'est le dernier jour des promos. D'accord ? Mais comme à comme, de toute façon, il y en a un qui se fout de ma tête, là. C'est pas possible. Non. Pourquoi? Parce qu'en vérité, Carrefour, il est ouvert de 9h à 11h le dimanche, parce que c'est quand même un jour férié. Il ouvre que 2h le matin. Maintenant, lui, il est passé devant Carrefour tous les jours. Il passe devant Carrefour à 14h. Et lui, il passe devant Carrefour tous les dimanches à 10h. Donc lui, le dimanche, il voit Carrefour ouvert. Et lui, le dimanche, il voit Carrefour fermé. Maintenant, quand tu lui poses la question, il est sûr et certain. J'ai vu que Carrefour, il est fermé. Et lui, il est sûr et certain. J'ai vu que Carrefour, il est ouvert. D'accord? C'est exactement la même chose. Le point commun, c'est qu'il fallait regarder les 24 heures pour avoir la réponse. Maintenant, ça n'a pas été transmis que, ah mais non, il y a aussi des heures d'ouverture et de fermeture, même le dimanche, que c'est fermé. Ou la transmission n'a pas été captée comme il faut. Donc, en vérité, chacun des deux, il dit exactement la vérité, mais qu'une partie de la vérité. Donc c'est ce qu'on est arrivé en conclusion la semaine dernière, qu'on a une Torah au fur et à mesure qui va être, on a dit, parcellaire, comme ça on dit.
Fasté.
Fasté, je ne sais pas si ça existe comme mot. Ça existe.
Facette.
Ouais, mais est-ce que c'est un mot français? Hein?
Parcellé.
Bon, parcellé. Ok, comme ça c'est...
Oui, parcellé. Bon.
Okay. Ok, une Torah plus, de moins en moins complète, on va dire.
Au niveau de la compréhension.
Au niveau de sa compréhension. Maintenant, donc, les mahloktot commencent à partir de, on a dit, Hillel et Shammai. Les premiers qui vont être en mahloket, la transmission dans première Mishnah de Pirkei Avot, dans tout le premier Pérek, en vérité, tout le premier chapitre de Pirkei Avot, la transmission commence depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à Hillel et Shammai. Hillel et Shammai, c'est... Je sais pas. Ça doit être 100 ans, ou un truc comme ça, ou 200 ans peut-être, maximum, avant la destruction du second temple. Donc depuis Moshe Rabbeinu, ça fait quand même plus que 1000 ans, où la transmission, elle n'a pas bougé. Il n'y a pas une seule discussion sur la transmission orale. Tout le monde est d'accord, on a tous la même Torah. Il n'y a aucune mahloquette. D'accord ? Dans la transmission orale, tout le monde le reçoit de maître à élève depuis Moshe Rabbeinu sans aucune discussion. Absolument aucune discussion. À partir de Hillel et Shammai, commence la discussion. Les élèves, les discussions grandissent encore plus, puisque chacun y capte moins. Il n'y avait que 6 points de discussion entre Hillel et Shammai dans toute la Torah. Que 6 points. Entre Bet Hillel et Bet Shammai, il y en a des centaines. Entre les deux écoles, après leurs élèves, il y a des centaines de points de discussion. Entre les deux maîtres, Hillel et Shammai, il n'y a que 6 points de discussion sur toute la transmission orale. Tout le reste, ils sont d'accord. Après, c'est Bet Hillel et Bet Shammai. C'est les écoles. Leur école, donc leurs disciples, les élèves, ils avaient des centaines d'élèves, d'accord. Les élèves, eux, entre eux, les élèves de Shammai et les élèves de Hillel, une fois que leurs maîtres quitteront ce monde, ils vont avoir des centaines de discussions. Là, la Ha'el va être fixée par le Bedin qui règne à Jérusalem, comme Bet Hillel. Et on avait ramené l'histoire de Rabbi Tarfon qui n'a pas voulu écouter Bet Hillel et qui s'est mis en danger à cause de ça, et que nos sages lui ont dit « Dommage que le danger ne s'est pas réellement réalisé. » D'accord ? Tu aurais dû prendre le danger dans la tête, comme ça.
Hein. Okay.
Où il s'est fait enlever par les brigands, etc.
L'histoire où il a fait appel à des prodigues.
Ah, on va voir cette histoire. Maintenant, après la transmission comme ça, et le Bedin va fixer à chaque fois, à chaque génération, selon qui va la halakha. Et ils vont fixer des règles. Ils vont fixer des règles qui vont être claires, qui vont être que quand c'est un tel qui est en discussion avec un tel, la halakha elle est comme lui, etc., etc. Et une des règles qui est fixée déjà par la Torah en vérité, on a vu dans je crois que c'est dans... Non, c'est pas dans Ekev ça. Je sais plus où c'est. Il y a une des règles qui est fixée par la Torah, c'est qu'on va selon la majorité tout le temps. Donc dans un tribunal, on va tout le temps aller selon la majorité pour fixer la halakha. D'accord ? Maintenant, il y a une histoire très connue qui est ramenée dans Shabbat Nuntet. Il y avait une discussion là-bas entre Rabbi Yehoshua, entre Rabbanan en vérité, et Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer Agadol. Donc Rabbi Eliezer, on l'appelle le grand. C'est un des plus grands sages d'Israël. Il est en discussion avec Rabbi Yehoshua et le reste des rabbins du tribunal sur la kachérisation de four en argile sur lequel serait tombé, dans lequel serait tombé, si je me souviens bien c'est ça le cas, dans lequel le four en argile serait tombé un reptile mort et qui a rendu impur le four. C'est des lois qui n'existent plus aujourd'hui puisqu'il n'y a plus le temple. Mais pour le rendre cachère ce four, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors il y a une discussion, est-ce qu'il n'y a pas de lieu de le cachériser, donc il faut le casser et puis c'est tout. Ou est-ce que si on l'enterre et qu'on le sort, etc. Bon, il y a tout un procédé. Il y a une discussion, je ne connais plus exactement c'est quoi la mahloquette. Je sais juste que Rabbi Yehoshua et Rabbanan, ils sont en discussion avec Rabbi Eliezer là-dessus. C'est qui dit quoi? Je ne me souviens plus. Rabbi Eliezer, il va voir Rabbanan, il leur dit, j'ai raison. Ils lui disent, non, tu n'as pas raison, on n'accepte pas ce que tu penses. Ce que tu penses est faux. Il leur dit, ah oui, on va voir si ce que je pense est faux. Il dit, si j'ai raison, qu'Hachem fasse un miracle et que l'arbre qui est planté ici se déracine, parte en courant et aille se planter là-bas. Et d'un coup, devant tout le monde, l'arbre se déracine, il part en courant et il va se planter là-bas. Rabbi Yoshua se lève devant tout le tribunal et il dit à Rabbi Eliezer, on ne prouve pas la Torah avec des miracles. Il y a des lois dans la Torah. Tu peux pas venir, je fais de la magie. Rabbi Eliezer, il continue, il dit, si j'ai raison que la rivière s'arrête et qu'elle coule dans le sens inverse, la rivière s'arrête et elle se met à remonter. Il dit, la même chose, qu'est-ce que tu veux chez nous? Alors, on va pas rentrer dans le détail, pourquoi l'arbre, on n'aurait pas accepté, mais la rivière, on aurait pu accepter. Puisqu'il vient... Mais non, il y a une explication. Pourquoi il vient encore avec un signe de la rivière? Pourquoi tu as besoin de ramener un autre signe? Il t'a déjà dit, on croit pas au signe. À quoi tu ramènes un... Après, il ramène un troisième signe. Que les murs du Beth Amidrash, si j'ai raison, se couchent dans le Beth Amidrash. Donc de la maison d'étude, que les murs se couchent. Et les murs commencent à se coucher, la Gemara nous raconte, et là Rabbi Yoshua, il se lève, il dit, vous occupez-vous de votre problème. Vous nous laissez tranquille, c'est une discussion de Torah, les murs, ils n'ont pas se mêlé de rien du tout. Et les murs sont remontés, ils sont restés penchés, la Gemara, elle dit, jusqu'à nos jours. Donc jusqu'à l'époque de la Gemara, si tu allais dans ce Beth Amidrash, tu aurais pu voir les murs encore penchés. Ils se sont pas relevés, hein? Je sais pas, à mon avis, aujourd'hui, avec les Romains, ils ont tout... D'accord. À l'époque de la Gemara, en tout cas, donc il y a 2000 ans, elle existait encore. Aujourd'hui, j'en sais rien. En attendant, hein, pourquoi ils ne sont pas devenus tout droits? Par respect pour Rabbi Eliezer. Et pourquoi ils ne sont pas retombés complètement? Par respect pour Rabbi Yoshua. Maintenant, Rabbi Eliezer, il va dire une phrase encore bien plus puissante. Et il va dire, si j'ai raison, que la voix céleste sorte du ciel et proclame que j'ai raison. Et là, la voix céleste sort et dit, mon fils Rabbi Eliezer a raison. Rabbi Yoshua se lève les yeux au ciel et il dit à Hachem, il lui dit, Lo bashamayim hi, la Torah n'est plus dans le ciel, tu nous l'as donnée. Et dans cette Torah, il y a une loi qui s'appelle, on va selon la majorité. Tu peux plus venir toi, même toi, contrer ta propre Torah. Comme ça, il dit à la voix céleste. Et la voix céleste répond, mes enfants m'ont vaincu avec ma Torah. Alors là, c'est incompréhensible cette histoire. Et là, la halakha, elle est comme Rabbi Yoshua et Rabbanan. Et Rabbi Eliezer n'a pas voulu accepter. Et ils l'ont mis en idouille, ils l'ont mis en harem. D'accord ? Interdiction de s'approcher de lui de 4 amot. Tu peux plus tourner à côté de lui. Il ne peut plus prier avec nous.
C'est dommage.
Ils l'ont fait mettre à genoux par terre devant eux. D'accord ? Pour le faire obéir. Et il a refusé d'obéir jusqu'à sa mort où ils ont enlevé le harem pour lui faire un enterrement.
C'est assez. Un sage en même temps qu'offert.
Razvé Shalom, il n'était pas coffert, mais il était tellement convaincu que après, c'est vrai à 100%.
Après, il n'a pas gardé à leur côté, parce que c'était un grand, et c'est bien de garder okay, un grand à ses côtés.
Okay,
c'est dommage.
Là-dessus, il s'est peut-être trompé, j'en sais rien. Je suis à côté de Rabbi Eliezer à Gadol. Maintenant quoi? Ils l'ont mis en Kherem, etc. Et même à la fin, il a fait une réflexion à Rabbi Akiva. Ce qu'il lui a dit au moment de sa mort. Donc, ils sont allés le voir. Ils ont enlevé le Kherem, et ils sont allés le voir au moment où il allait mourir. Et Rabbi Eliezer, à ce moment-là, il le regarde et il lui dit à Rabbi Akiva, pourquoi tu n'es pas venu toutes ces années? C'était son maître. Et Rabbi Akiva, il lui dit, mais Kvodarav, tu es en Kherem. J'avais pas le droit de m'approcher de toi. Il lui dit, tu n'avais pas le droit dans mes 4 amotes, mais tu te serais mis à 4 mètres au lieu de te mettre qu'à 2 mètres. Tu aurais pu écouter ma Torah. Qu'est-ce que tu as perdu? Et là, Rabbi Akiva qui se met à pleurer, machin. Toute l'histoire, tous les sages sont venus pour lui dire qu'il le pardonnait, etc., etc. En tout cas, on voit quoi? Que même Rabbi Eliezer à Gadol, il a fait parler la voix divine et les sages. Ils ont répondu à la voix d'Hachem. C'est plus ton problème aujourd'hui. Ça veut dire quoi en réalité? Si on lit cette histoire sans la comprendre, d'accord? Moi, quand j'ai lu cette histoire, la première fois de ma vie, j'ai fait des bonds comme ça sur ma chaise. J'ai dit, mais ça, c'est pour Azé. C'est quoi cette histoire? Hachem, il vient parler, il lui dit, toi, tais-toi. Où on est ici? Az le Hinoch Behemet, il explique très bien, il dit comme ça. C'est quoi que Akadosh Baruch Hu, il a dit, mes enfants m'ont vaincu. Hasbe Halila de vaincre Hachem. C'est pas ça le... C'est quoi hein? J'attends pas une réponse. C'est quoi le... Je pose une question pour moi répondre. C'est quoi le... Pourquoi? C'est quoi cette réponse qu'Akadosh Baruch Hu donne, que la présence divine va donner? Mes enfants m'ont vaincu. Le Hinouch, il explique, il dit, même si mes enfants ne sont pas arrivés à la profondeur de l'explication de Rabbi Eliezer, qui moi, Hachem, je sais que la profondeur de son explication, c'est elle qui est vraie. Mais eux ne comprennent pas cette profondeur. Mais ils ont une loi de la Torah qui vient leur dire que si Rabbi Eliezer n'arrive pas à les convaincre par la logique du raisonnement, ils n'ont pas à l'écouter. Donc même si la logique de Rabbi Eliezer est complètement la vraie absolue, la véritable logique, vu qu'il n'est pas capable de leur expliquer et qu'ils la comprennent, et du coup ils ne comprennent pas ce qu'il dit, donc ils ne sont pas d'accord avec lui, alors c'est lui qui a perdu. Inachiname. En effet, c'est lui qui perd. Parce que la Torah, elle a dit, on va selon la majorité. Mais la majorité, il faut réussir à la convaincre. Si tu ne la convaincs pas, tu ne peux pas dire, c'est moi qui ai la vérité. Même si Hachem, il vient dire, c'est toi qui as la vérité. C'est très bien, mais la Torah, tu nous l'as donnée à nous. Pour que nous l'expliquions, pour que nous la fassions. Pas pour que des anges la fassent parce que tu leur as dit de la faire. Pour que nous la comprenions, Naase Venishma. On fera et on comprendra. Mais si on ne comprend pas ce qu'il est en train de raconter, c'est très joli que c'est lui qui a raison. Mais nous, on pense autrement et on le prouve. Et on est tous d'accord sur ce qu'on a prouvé. Moi, Rabbi Yoshua, quand j'ai prouvé ce que je devais dire, tout le monde a accepté. Ce que Rabbi Eliezer, il prouve pour dire avec des anges et des machins, il n'y a personne qui accepte son raisonnement. Il n'a qu'à nous prouver son raisonnement. Et Akadosh Baruch Hu lui-même, la voix céleste en tout cas, elle vient et elle dit... Mes enfants ont vaincu. C'est eux qui ont raison, en effet. La Torah leur a dit de faire ça. Et qu'est-ce que moi, Kadosh Baruch Hu, je suis heureux de voir que mes enfants, pour respecter la Torah, ils vont tête, comme on dit, Rosh Bakir en hébreu, droit dans le mur. Ils s'en fichent. On fonce. Tant qu'il ne nous prouve pas qu'il a raison, il n'a pas raison. Même s'il amène tout ce qu'il veut amener, tous les miracles et compagnie. Donc on voit qu'en vérité, la puissance du Beit Din Agadol, d'accord? Donc maintenant, ça c'est le Mahloktot. Qu'en vérité, les deux, ils ont raison. Mais chacun en fonction du regard qui va porter à la chose. Maintenant, pour arriver la Inyané, nous, on va dire, à notre sujet, à notre génération, à toutes les générations après la destruction du Beit Amikdash, où il n'y a plus le grand tribunal à Yerushalayim. Asbe Etzem, est-ce qu'on a l'interdit de la Torah de ne pas écouter les grands des générations ou pas? Aujourd'hui, on dit tout le temps, d'accord? Tout le temps, on dit, ah, les Gdolim, ils ont dit. D'accord, on entend souvent cette phrase. Les grands de la génération, ils ont dit. Les Gdola Ador. Les grands de la génération, ils ont dit, donc tu dois faire, c'est tout. Ouais. On connaît plein de psakim qui sont sortis ces dernières années. D'accord? Sur internet, sur ci, sur ça, tout ce que vous voulez. Les grands de la génération, ils ont dit, donc c'est comme ça que ça marche. Est-ce qu'on doit écouter les grands des générations, dans chaque génération? Ou est-ce qu'on ne doit pas les écouter? Est-ce qu'en tout cas, qu'on doit les écouter, on verra. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'écoute pas les grands des générations, les décrets que font les grands des générations, les Rishonim, les Acharonim, les Rabbanim de notre génération, est-ce qu'ils transgressent cet interdit de la Torah qui est d'écouter les Gdolim, d'écouter le juge de ta génération? C'est marqué, le juge qui vivra dans tes jours. Alors, j'ai pas de juge, moi, au tribunal. Alors, qui je vais écouter? Les plus grands. Mais est-ce que si je ne l'écoute pas, maintenant je transgresse la Torah ou pas? Alors en réalité, a priori, c'est une mahloquette, encore une mahloquette, entre le Rambam et le Sefer HaChinuch.
Vous avez peut-être interdit
de ne pas écouter le juge de ta génération. Ok, donc c'est une discussion entre le Rambam a priori et le Chinuch, et en vérité, entre tous les Rishonim et le Chinuch. Donc Vous savez c'est qui les Rishonim? Les premiers. C'est qui les premiers? Est-ce que tout le monde connaît un peu la transmission? Hein? Ouais, mais toute la transmission depuis le temple. Est-ce que vous connaissez ou pas? Non? Alors, après la destruction du temple, Rabbi Akadosh. Rabbi Akadosh, c'est Rabbi Yehuda Hanassi. Le prince. Rabbi Yehuda Hanassi, c'est Rabbi Yehuda le prince. Il était lui le chef du tribunal à l'époque. C'est l'époque de la destruction du temple. C'est au moment de la destruction du temple. Il a décidé de compiler tous les enseignements oraux qui avaient été écrits de manière... comment on dit en français? Katsar.
Résumé.
Télégraphique.
Succinct.
Compilé. Non.
Résumé.
Non. Résumé, ouais. Très court. D'accord. De manière synthétique. Okay. Il a synthétisé tout et il a compilé ça. Il a appelé ça les Mishnayot. La Mishnah. Après ça, il y a une transmission orale de l'explication de la Mishnah. Et on va arriver 200 ans après, à peu près, ou 300 ans après, à l'écriture du Talmud de Jérusalem, qui est la Gemara, le Talmud Yerushalmi, qui va être l'explication de la Mishnah d'après les sages d'Eretz Israël.
Deux Mishnayot, c'est Rabbi Yehuda Hanassi
qui les a compilés, oui. Et son tribunal. Après cela, qu'est-ce qui s'est passé? Donc il y a la descente des générations, il faut expliquer. À chaque fois, il faut expliquer plus. Donc on a écrit la Gemara, ça c'est Rabbi Yochanan et Resh Lakish qui ont compilé le Talmud Yerushalmi, le Talmud de Jérusalem. Eux, ils vivaient en Eretz Israël. D'accord? Ce sont des Amoraïm. Eux, ils sont des Amoraïm. Il y a les Tanaïm, d'abord, c'est les sages de la Mishnah. Les sages de la Gemara, c'est les Amoraïm. C'est l'explication de la Mishnah. Eux, ils ont compilé le Talmud de Yerushalayim. Après ça, 200 ans après à peu près, il y a eu la compilation du Talmud de Babylone. Les sages de Babylonie. D'accord? Eux, ils ont lu le Talmud de Yerushalmi et avec tout ça, ils ont compris qu'on a des précisions supplémentaires. Parce qu'ils ont tout entendu. Et ils vont compiler ce qu'on appelle le Talmud de Babylone, qui commente aussi la Mishnah, de manière différente que le Talmud Yerushalmi. Et aujourd'hui, on va selon le Talmud Bavli, parce que c'est le dernier. Vu que c'est le dernier, ils ont déjà vu le Talmud Yerushalmi. Donc s'ils ne sont pas d'accord avec le Talmud Yerushalmi, c'est qu'ils ont leur raison. Après, il y a les périodes des Savoraïm. Eux, ils n'ont presque rien écrit. Rabbi Yochanan, ça c'est le Talmud Yerushalmi. Le Talmud Bavli, c'est Rav Ashi et Ravina qui l'ont compilé. Ashi et Rav Ina. Ravina en un seul mot. Ravina en un seul mot et Rav Ashi en deux mots. Maintenant,
je peux faire.
Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Rabbi Shimon ben Lakish. Et Resh Lakish. Maintenant, après, il y a les Savoraïm. Les Savoraïm, ils ont presque rien écrit. Les penseurs.
Savoraïm,
les penseurs. Après les penseurs, il y a la période des Géonim, les génies. Ils ont un peu écrit, mais pas beaucoup. Après ça, on arrive à il y a environ 1000 ans. D'accord? Il y a 1000 ans en arrière, commencent les Rishonim avec Rabbeinu Hananel, le premier Rishon, Rashi juste après, et toute la lignée des Rishonim, le Rif, le Rambam, le Ramban, tous ces noms-là qui sont très connus, les Tosfot, etc., etc. Tous ces noms-là qui sont que des Rishonim, ça dure environ 500 ans, avec l'arrivée du Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, donc il y a environ 500 ans, qui est le premier des Acharonim ou le dernier des Rishonim. C'est vraiment la jonction. Et après ça, c'est la période des Acharonim. Des derniers. Les derniers. Et aujourd'hui, on est dans la période de ce qu'on appelle Acharonim et Acharonim. Les derniers des derniers. Parce qu'on espère que Ezrat Hashem, Mashiach Tzidkenu, il va arriver. Donc ça, c'est toute la transmission. D'accord? Sur un pied, je vous ai résumé toute la transmission.
Il continue à commenter?
Il continue à expliquer.
À expliquer? Et aujourd'hui encore on explique?
Oui, encore aujourd'hui on explique.
Puisque...
Bien sûr, il y a des milliers de tridouchis encore aujourd'hui. Mais avec les lois que les premiers nous ont fixées. Ça reste dans les règles d'explication qu'on nous a fixées. Quand ils ont fixé les lois d'explication, ils nous ont laissé un champ d'action. Tout ce qu'on va dire, tant que ça ne contredit pas une de ces règles-là, c'est vrai à 100%. Puisque c'est eux qui ont fixé ces règles. D'accord? Maintenant, est-ce qu'on doit écouter maintenant à chaque génération, depuis qu'il n'y a pas le temple, pourquoi on doit écouter Shulchan Aruch? Pourquoi on doit écouter le Rambam? Pourquoi on doit écouter celui-là? Pourquoi on doit écouter aujourd'hui Rav Ovadia Yosef? Pourquoi on doit écouter... Arrête, c'est pas le Beit Din de Yerushalayim. Moi, je comprends différemment. J'ai qu'à faire comme un autre.
Parce que sinon, on casserait la religion. Enfin, on casserait la...
Ah quoi? Alors qu'on a juste fait une barrière de pas casser. Alors, c'est pas un interdit de la Torah. On est tous des juifs, même le Témani, même le machin. Tous, on a la même Torah, exactement la même Torah. On a exactement le même Talmud. On a exactement la même transmission. Juste, on n'arrive pas aux mêmes conclusions. Mais ça veut pas dire, chas v'shalom, que l'autre, il est pas juif. D'accord? Donc maintenant, Beitzem, est-ce qu'on doit écouter les grands de chaque génération après la destruction du temple, d'après la Torah, ou est-ce que c'est juste ce qu'on appelle Asmarta Be'alma, c'est-à-dire on apprend ça de la Torah, mais ce n'est pas la mitzvah de la Torah. C'est un bon conseil, c'est une bonne chose. C'est comme ça qu'on doit se comporter, mais si tu ne le fais pas, tu ne transgresses pas la Torah. Alors il y a deux avis dans les Rishonim. Il y a l'avis du Rambam, le Rambam il dit que toute cette loi-là, bon je ne vais pas lire parce qu'il est déjà très tard, ouais. Tout... Hein?
Elle est fausse.
Bon, elle a que 3 minutes d'avance. Bon, ben. Ah non, elle a une heure. Ouais, j'avais pas vu l'heure. Ok. Donc maintenant, si le. Y a un, d'après le Rambam, a priori, ça ne concerne que le tribunal qui siège dans le Beit HaMikdash. D'accord? Il dit Bedin Agadol chez Birushalayim, ou Ikar, Hem Ikar, Torah chez Baalpé, c'est eux qui ont transmis la Torah chez Baalpé, et c'est ça l'essentiel, etc. etc. Kol Mishéno, Ose Behoratan, Over Belotase, Shinehemar, Lotasum, Ikola Davar, Asher Egidulach. Asher Egidulecha. Donc, quoi, le Rambam il dit celui qui ne les écoute pas, lui, transgresse l'interdit de la Torah de ne pas écouter les sages qui vivront à Yerushalayim, l'interdit de l'otasur, mais Masiyurucha, tu ne te détourneras pas de ce qu'ils t'enseigneront, ni à gauche, ni à droite. D'accord? C'est un verset noir sur blanc dans la Torah. Il dit, vous savez que tous les interdits de la Torah à l'époque du Temple, si on le transgresse, il y a une condamnation qui s'appelle Malkout. C'est quoi Malkout? Si on reçoit 39 coups. D'accord? Si on mange, quelqu'un il mange du porc à l'époque du Temple, il reçoit 39 coups. S'il y a deux témoins qui l'ont prévenu, ils ont dit, attention, si tu manges du cochon, tu vas être frappé de 39 coups, d'accord? Et lui, il va pour mettre la fourchette à la bouche, il dit, je sais et j'en ai rien à faire. Et il mange, s'il ne dit pas ça, c'est pas sûr qu'il est frappé, attention. Il faut qu'il dise, je sais et je m'en fiche, royalement. Alors à ce moment-là, les deux témoins ont l'obligation, d'après la Torah, c'est inversé aussi, d'aller au tribunal, témoigner contre lui et dire, nous l'avons prévenu, que c'est interdit de manger du cochon et que s'il le mangeait, il reçoit des coups. Il a dit, je sais, j'en ai rien à faire. La police va chercher ce monsieur et on lui donne sa sentence.
C'est déjà arrivé.
D'accord? Hein? Bien sûr que c'est déjà arrivé. Ok. On lui donne, maintenant, on lui donne pas 39 coups forcément, on lui donne ce qu'il est capable de recevoir. C'est-à-dire qu'un médecin vient, examine son corps et il dit, il peut recevoir qu'un coup. Donc on va lui mettre qu'un coup. D'accord? C'était des gros coups. On va pas faire un détail.
C'est rare et à l'Europe, c'est
que tous les interdits de la Torah qui sont pas punis d'une autre peine. D'accord? Tous les interdits, pas les mitzvot. C'est-à-dire de mettre les tefillin, tu n'es pas frappé si tu veux pas les mettre. D'accord?
C'est son problème maintenant s'il ne veut pas manger cachère.
Non, c'est pas son problème. La Torah, c'est pour tout le peuple d'Israël. Il y a des juges, ils servent à quoi? À juger la Torah. Ils servent pas juste là, ils sont pas juste venus pour juger la voiture, elle a rentré dans telle voiture.
Et même dire, je veux plus être juif.
Mais tu n'as pas le droit de ne pas être juif. Non, la Torah, elle a dit, tu es juif, tu es né juif, tu es juif, point.
C'est pas la délation pour ceux qui pourraient être dans
la... Non, c'est un interdit de la Torah de ne pas y aller. La délation, ça n'a rien à voir. La délation, c'est de venir tout seul et dire, moi j'ai vu un tel. Là, on va te dire à toi, rentre vite chez toi avant que ce soit toi qu'on frappe. Pourquoi tu viens tout seul? Tu sais très bien que si tu viens tout seul, on ne peut rien lui faire. Donc tu viens juste nous mettre un doute sur cette personne-là. Rentre chez toi. Maintenant, avant de frapper, d'accord, avant d'appliquer les peines, que ce soit clair, il y a une enquête. Il y a une masserette entière, un traité entier du Talmud qui s'appelle Sanhedrin, qui parle de ça. Comment on va faire une enquête déjà sur le témoin? Est-ce que tu es kasher, toi? Est-ce que Bichlal, toi, tu as le droit de témoigner? Qui m'a dit que tu n'as jamais mangé, toi aussi, du porc?
C'est pas
Quelqu'un qui a transgressé une mitzvah de la Torah volontairement, il n'a plus le droit de témoigner.
La même mitzvah, la même mitzvah.
Pas sous la doute. Peu importe laquelle. Non, on va pas rentrer là-dedans. S'il y a tchouva, il faut que le bedin te rende kasher. Donc il y a plein de choses. Et aussi, on va prendre par exemple un cas simple. Si maintenant, ils vont dire, on va lui poser la question au témoin, on va leur dire, et où il était au moment où il a fait l'action ? Dire, je sais pas, il était sous un figuier. Ah, quelle couleur elles étaient les figues ? Après, on prend les deux témoins, on les sépare quand on fait l'enquête. Lui, on l'enferme dans un coin. Lui, on l'enferme dans un autre coin. Lui, on l'interroge, après on va interroger lui. On lui dit, quelle couleur elles étaient les figues ? À toi. Ah, elles n'étaient pas encore mûres, elles étaient vertes. Ah, là on va voir le deuxième. Quelle couleur elles étaient les figues ? Ah, je crois violette. Ah ouais ? Le témoignage annulé. Vous êtes des... témoignage annulé. Pourquoi ? Vous êtes trompé ? Vous êtes trompé, vous n'avez pas bien scruté. Comment vous venez parler avant d'avoir regardé comme il faut ? Vous savez pourquoi le haïn, il est avant le P ? Dans l'alphabet, parce que le haïn, d'abord tu regardes bien, après tu parles avec ta bouche qui est le P, et après tu seras un tzadik, c'est le tzadik qui vient derrière. Après tu seras un tzadik, mais si tu parles avant d'avoir bien tout regardé, alors tu es un rachat, tu n'es pas un tzadik, tu n'as pas le droit de parler. C'est très grave. Donc maintenant, en tout cas, on ne va pas rentrer dans tous les détails. Hachem, il nous a donné des outils dans la main, d'accord ? On fait avec les outils qu'on a, on ne peut pas faire avec plus que ce qu'on a. D'accord ? On peut pas faire plus. Maintenant, la Gemara, elle pose la question. Et si maintenant, il y a des témoins, d'accord, ils sont venus pour condamner à mort quelqu'un. Et on l'a condamné à mort. Et après, on s'aperçoit que c'était des faux témoins. Non, on leur fait plus rien parce qu'ils l'ont déjà tué. Ça sert à quoi de les tuer maintenant ? D'accord ? Plus rien, c'est fini. Ben oui, la Gemara, elle dit, c'est qu'Hachem, il avait décidé que ça se passe comme ça. Mais Hachem, il nous a fermé les yeux là-dedans. Bon, on ne va pas rentrer dans toutes les lois. Vous me demandez au moins déjà 3 macertotes, 3 traités du Talmud sur un pied, d'accord ? Le Rambam, il dit, c'est que pourquoi on ne va pas être frappé sur cet interdit-là, celui qui le transgresse ? Parce qu'il y a un klal, que comme quelqu'un, s'il était un Talmud Racham, s'il était un grand rabbin lui aussi, et qu'il transgresse cet interdit, il serait condamné à mort. D'accord ? Donc il y a une loi qui dit que si un interdit risque d'arriver à la peine de mort, on n'est jamais frappé dessus, même si on le transgresse. Donc par exemple, quelqu'un qui transgresse Shabbat, il ne sera pas frappé. Pourquoi ? Parce que s'il y avait deux témoins qui l'avaient prévenu, il aurait été condamné à mort. Donc il n'est pas frappé, même s'il n'y a pas eu si les deux témoins lui ont juste dit « Attention, tu vas être frappé », il n'est pas frappé. D'accord ? Donc la même chose pour ici. On a vu que celui qui refuse d'écouter les décisions du tribunal, la Torah a dit qu'il est condamné à mort. On parle de quoi ? On parle d'un sage qui connaît la Torah bien comme il faut, qui connaît les lois, etc. On ne parle pas de quelqu'un qui ne croit pas en la Torah orale. Celui-là, il a un apikoros, d'accord ? Il a un renégat. Mais on ne va pas maintenant le condamner à mort. D'accord ? C'est qui qu'on va condamner à mort ? C'est si tu vois le deuxième plus grand rabbin d'Israël qui arrive au tribunal et il dit « Moi, je ne suis pas d'accord avec vous ». Et il lui prouve qu'il a tort et quand il sort, il continue à faire le contraire. Alors lui, vu qu'il a un exemple pour toute la nation, la Torah, elle a dit « Het ». Misken. D'accord ? Donc, on va le condamner à mort. Maintenant, vu que celui-là, il risque d'être condamné à mort, toute personne qui transgresse l'interdit de ne pas écouter les sages du tribunal à Gadol, il ne reçoit pas de coup. Parce que ça peut amener à une condamnation à mort. D'accord ? Mais maintenant, d'après le Rambam, donc tout l'interdit ne concerne que le grand Sanhedrin qui est à Yerushalayim dans le temple. Oui ? C'est clair tout ça ? Ça, c'est d'après le Rambam. Il y a un autre endroit aussi dans l'Ilchot Sanhedrin, il le précise. Là, on est dans l'Ilchot Mamrim, les lois des rebelles. D'accord ? Donc, dans les lois des rebelles, il explique bien ça tout en long, en large. Maintenant, le Hinour, lui, c'est un autre Rishon. D'accord ? Le Rambam, c'est un Rishon. Le Hinour, c'est un Rishon aussi. Entre parenthèses, le Ramban, Nahmanid. Rambam, c'est Maïmonide. Ramban, c'est Nahmanid. C'est aussi un Rishon. Lui, il a dit, sur son explication sur la Torah, il dit comme le Rambam, que c'est le tribunal, le grand tribunal de Yerushalayim sur lequel on transgresse l'interdit et rien d'autre. Le reste, on transgresse juste un bon comportement à avoir. Maintenant, le Hinour, le Sefer HaHinour, lui, il précise, il dit « Venoeget mitzvah zu leinyan zaken mamre bizman abayit » En ce qui concerne le sage qui se rebelle, cette mitzvah n'est applicable qu'à l'époque du tribunal, dans le temple. ולעניין החיוב עלינו לשמוע לדברי חכמנו הקדמונים ואל גדולנו בחוכמת תורה ושופטנו שבדורנו נוהגת בכל מקום ובכל זמן בזכרים ובנקבות. Par contre, en ce qui concerne l'obligation d'écouter chacun des sages, des plus grands, chacun des juges, de chaque génération, jusqu'à la fin des temps, cette loi, elle s'applique d'après la Torah. Donc, il n'est pas d'accord sur le Rambam à ce sujet-là. La loi d'écouter, de transgresser la Torah, si tu n'écoutes pas les grands de ta génération, d'après le Chinour, c'est un interdit de la Torah. Ça, c'est d'après le Chinour. Et il dit qu'il est applicable, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, pour tout le monde. Même les femmes, elles sont obligées d'écouter les grands juges de chaque génération. Et il précise, et celui qui fait une brèche dans cet interdit-là, alors c'est quelqu'un qui ne croit pas en la Torah qui a été transmise oralement par Moshe Rabbeinu, etc., etc. Et il transgresse l'interdit de la Torah, juste on n'est pas frappé dessus. Ok. Noir sur blanc, le Hinouch, il n'est pas d'accord avec le Rambam. Donc on a une discussion, a priori, Mahloket Rishonim, sur une mitzvah de la Torah. Il y a un klal, une règle qui est ramenée dans toutes les mitzvot, partout, que s'il y a une discussion entre deux sages sur, ou entre deux tribunaux sur une mitzvah de la Torah, est-ce que c'est permis ou interdit d'après la Torah, alors on va selon l'avis le plus strict. D'accord ? Si c'est sur une mitzvah des rabbins qui a une discussion, par exemple Hanouka, c'est une mitzvah des rabbins, il y a une discussion sur Hanouka, comment on fait, on va aller vers l'avis le plus cool. Par contre, le moins strict. Par contre, dans la Torah, on va aller selon l'avis le plus strict. Donc là, l'avis le plus strict, c'est le Hinour, qui dit que la mitzvah, elle s'applique encore aujourd'hui, d'écouter les sages de chaque génération. D'accord ? Maintenant, il faut savoir que, on va arriver si j'ai le temps, mais il faut savoir que, des fois, le Rav qui est dans ton Bet Hamidrash, pour toi, c'est ton Gdol Hador. Pourquoi ? Parce qu'il te connaît mieux que le Gdol Hador. Donc si toi, tu as une question à lui poser, maintenant, sur un sujet personnel, alors il vaut mieux que tu ailles poser la question à lui plutôt qu'au Gadol Hador qui ne te connaît pas. D'accord ? Parce que Roi HaKodesh et compagnie, c'est très joli. Mais c'est en fonction des données que tu vas lui donner et que tu vas lui transmettre. Il va avoir une aide du ciel pour te répondre. Mais si tu lui transmets mal la donnée, il risque de ne pas avoir la bonne aide du ciel. Alors que ton Rav qui te connaît très bien, il sait qui tu es. Il sait c'est qui ta famille, etc. Donc quand tu vas lui poser la question, déjà ça va lui faire tilt dans sa tête, si c'est un vrai rave, si c'est un bon rave, ça va lui faire tilt dans la tête. Ah, faut prendre en considération ça, faut prendre en considération ça, 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 ça. Alors que toi, quand tu vas voir le Gadol Hador, tu as 35 secondes pour lui parler, parce qu'il y a 300 000 personnes qui attendent derrière toi, et qu'il a 2 heures pour répondre à 500 personnes. D'accord ? Donc tu as 30 secondes, tu lui passes un mot, ou tu as écrit ta question, il lit en 30 secondes le mot, et il te répond oui ou non. Des fois, c'est difficile. Maintenant, ce dont je parle, ce n'est pas de ça. Je ne parle pas des questions qu'on va poser. Je parle de les décrets que vont faire les sages de chaque génération. Donc, on parle des décisionnaires. C'est sûr et certain. D'accord ? Donc, les décisionnaires de chaque génération, les décrets qu'ils vont faire. Est-ce que tu es obligé de l'écouter ou pas ? D'après le Hinour, oui. D'après le Rambam, tu es obligé d'écouter. Mais tu ne transgresses pas l'interdit de la Torah de ne pas les écouter. Tu es obligé parce que nos sages ont dit que c'est bien de faire ça. C'est Asmarta Be'alma, ce qu'on appelle Asmarta Be'alma. On s'appuie sur le verset, mais ce n'est pas la mitzvah de la Torah. C'est un bon conseil. Il faut que tu fasses ça pour bien te comporter selon ce que la Torah a enseigné. Mais ce n'est pas un interdit de la Torah sur lequel tu vas aller brûler au Geinam. D'accord ?
Tu peux répéter qui c'est qui dit oui, qui c'est qui dit non ?
Le Hinour, il dit que tu es obligé d'écouter. Le Rambam, il dit que tu n'es pas obligé d'écouter. Le Ramban aussi sur la Torah. Maintenant, donc a priori, on a une discussion de nos sages. Maintenant, il y a un deuxième Rambam, Rabotai. Et là va commencer le doute encore plus grand. La Akdama, l'introduction du Rambam sur son livre, pour lequel le Rambam il est connu. C'est pas comme on croit dans les universités. Non, ça, il paraît que ça fait beaucoup de bruit sur le micro. Donc c'est pas comme le Rambam, c'est pas comme on croit dans les universités que le Rambam il a écrit un livre de philosophie qui s'appelle le Moreh Nevuchim. D'accord ? Et pour ça, il est devenu célèbre. Chez les Juifs, le Rambam n'est pas devenu célèbre pour le Moreh Nevuchim. Il est devenu célèbre pour le Mishneh Torah. ce qu'on surnomme le Yad HaHazaka, la main puissante. D'accord ? Pourquoi Yad ? Parce qu'il y a 14 livres. Donc Yad, Gematria, 14, Yud, Dalet. D'accord ? Donc la main puissante. Le Rambam. On le surnomme aussi le Rambam. C'est ça son livre. C'est quoi ? C'est son livre de décision de Halakhot. Il y a 14 livres comme ça. Hein ? D'accord ? C'est que des décisions de Halakhot. C'est ses Psakdin. Comment lui il a décrété le Psak ? Maintenant, dans l'introduction, il résume en quelques pages toute la transmission orale de A à Z depuis Moshe Rabbeinu, presque jusqu'à lui. En tout cas, jusqu'à la Gemara. Et il dit comme ça, à la fin de la Gemara, à la fin, une fois qu'il a terminé la transmission de la Gemara, il dit « Et tous ces sages de la Gemara, ils vont expliquer les traditions, et les lois, et les explications des versets, etc. etc. » Et il dit « V'chen il ba'er mehem, aminagot v'atakanot, shitkinu o shenahagu b'chol dor v'ador » Kemo shera'u bet din shel oto ador, selon la décision de ce tribunal-là. Le fish asur l'issur mehem, et il est interdit, puisqu'il est interdit de se détourner de ce qu'ils vont dire. Sheneemar lo tasur mikol adavar asher yagidu lecha yamin osmo. Parce que c'est marqué, tu ne te détourneras pas de ce qu'ils te diront, droite et gauche, ni à droite ni à gauche. Le Rambam, il parle de qui ? Des sages de la Gemara. Mais à l'époque de la Gemara, le temple, il est détruit depuis quand ? Depuis déjà 500 ans. Donc, il n'y a plus le Bet Din à Yerushalayim. Il y a d'autres Batedinim à Nardea, d'accord ? Dans chaque ville, il y a d'autres Batedinim. Mais il n'y a pas le Bet Din de Yerushalayim. Et là, le Rambam, il nous dit, et il y a l'interdit de la Torah de se détourner de ce qu'ils vont dire. Donc la Gemara, on est obligé d'écouter au même titre que les décisions du tribunal de Yerushalayim d'après le Rambam. Alors il se contredit. Juste avant, il a dit c'est que les décisions du tribunal de Yerushalayim. Et ici, il te dit non, même la Gemara. Alors le Kovetz Shiurim, dans son livre, c'est Rav Elchanan Wasserman, Hashem Yikom Damo, que Hashem venge son nom, il a été tué par les nazis. D'accord. Rav Elchanan Wasserman, il dit dans le Contra Sassofrim, je vais pas rentrer tout dans le détail. Ceux qui veulent aller le voir, Bechavot, je vous montrerai où c'est si vous voulez le lire. D'accord. C'est Siman Bet, Hot, Gimel et Dalet. Donc, bon, en tout cas, il dit là-bas. Il dit là-bas, dans le Contra Sassofrim, il dit que c'est quoi ? Pourquoi le Rambam ici, il parle comme ça ? Il y a une contradiction a priori. Alors le Rambam, il explique que quoi ? Que c'est quoi toute la raison pourquoi on devait écouter les sages, que les sages qui étaient à Yerushalayim même ? On a expliqué tout à l'heure, parce qu'ils ont l'aide d'Akadosh Baruch Hu, vu qu'ils sont dans le temple. Mais ces sages-là, ils sont 71 sages. Mais il y a d'autres sages dans tout le pays. Ils peuvent ne pas être d'accord avec eux. Ils ne représentent pas tous les sages d'Israël. Donc c'est pour ça que la Torah elle a dit, attention, vu que vous ne représentez pas tous les sages d'Israël, pour que tout le monde vous écoute, il faut que vous soyez dans le temple. Parce qu'à ce moment-là, vous avez mon aide à moi, d'Akadosh Baruch Hu, et du coup, vous êtes plus grand que tous les sages. Mais si jamais vous êtes exilé du temple, il n'y a plus l'aide d'Hachem, vous ne pouvez plus parler au nom de tout le peuple d'Israël, puisque vous ne représentez pas tous les sages d'Israël, vu que vous n'êtes que 71 sur 2 millions. Donc, ça c'est la raison pourquoi que les sages qui sont à l'époque du temple, dans le temple, on a la mitzvah de la Torah d'écouter. Mais le Talmud qui a été accepté par tous les sages d'Israël à son époque, tous réunis... Alors eux, ils représentent tous les sages d'Israël. Il n'y a pas besoin du temple pour ça. Puisqu'ils représentent tout le peuple d'Israël. Donc même le Talmud, il y a l'interdit de Horaïta de se détourner de lui. Et la même chose pour chaque génération, si on regarde ça. Si un Rav, il a accepté d'après toutes les autres, d'après tous les autres Rabbanim. Alors à ce moment-là, il recevra le même din que le tribunal de Yerushalayim. Et celui qui se détourne de ce qu'il annoncera, alors il transgresse la Torah. C'est pour ça que le Rambam lui-même, en tout cas pour les Sfaradim, vu qu'il a été accepté par tous les Sfaradim, tous les Rabbanim Sfaradim, alors après l'époque du Rambam, eh bien, la loi des Sfaradim, c'était le Rambam. Et personne n'avait le droit de se détourner de ça. Et après le Shulchan Aruch, tout le monde a accepté le Shulchan Aruch. Du coup, pour les Sfaradim, c'est qui le Shulchan Aruch? C'est celui selon qu'on suit de A à Z. C'est Maran. Et comme ça, en vérité, dans chaque génération. Donc, il faut faire très attention. Si un sage, il est accepté par tous les sages de sa génération, alors forcément, même d'après le Rambam, a priori, d'après ce qu'explique Rav Elchanan Wasserman dans le Rambam, il y a l'interdit de l'écouter. Si c'est des sages qui vont parler, qui vont faire un décret, si tous les sages d'Israël se réunissent et font un décret maintenant, ensemble, c'est sûr et certain aussi, d'après ce qu'il a dit, qu'il y a l'obligation de la Torah d'écouter. La machloquette entre le chinour et le Rambam, elle ne s'applique que dans un cas où il y a une discussion entre les sages et que un n'accepte pas ce que l'autre a dit. Alors là, si tu transgresses ce que lui a décrété, tu ne transgresses pas l'interdit de la Torah. D'accord ? Si il y a une majorité de sages, mais il n'y a pas tous les sages qui sont d'accord avec ça, aussi tu ne transgresses pas l'interdit de la Torah en n'écoutant pas ce qu'ils vont dire. Mais c'est un bon conseil. Comme on a déjà précisé que la Gemara, elle précise que « Kol anotel et tsa mi nane zekinim, leolam eno leolam lo irshol af matzliach » Ce qui veut dire que toute personne qui prend conseil chez les grands de sa génération, alors jamais il ne pourra se tromper et même il réussira toujours. Il réussira toujours. Mais tu ne transgresses pas l'interdit de la Torah. Tu transgresses pas l'interdit de la Torah que s'ils se sont réunis ensemble, tous les grands de la génération, et ils ont dit, là, l'Halakha, elle est comme ça. Celui qui transgresse, là, il transgresse aussi l'interdit de la Torah, même d'après le Rambam, d'après ce qu'a dit le Kovetz Shiurim. Voilà pour le Shiur. Donc, qu'on comprenne bien ce que la Torah, elle demande de nous, Be'ezrat Hashem, et qu'on applique bien tout ce que la Torah, elle demande de nous. Sheniske Be'ezrat Hashem. Si vous avez des questions, ou maintenant, ou dans la semaine. Voilà. Ouais.